Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, chère Sophie, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Nicolas Chalère de l'Obs et Eric Neuhoff du Figaro qui publie Sur le vif aux éditions du Rocher, un recueil de textes mélancoliques. Je dis bien mélancolique, où il est question notamment de Bardot, de Deneuve, de Rochefort, de Truffaut, de Sharon Stone, tu es un petit faible, de Melville, de Dabadi, de Clint Eastwood, du Festival de Cannes. Et c'est évidemment, et plus particulièrement à lire Cusseck, ça s'appelle « Sur le vif ». Et c'est signé Eric Neuhoff. On parle ce soir de « Mon grand-père et moi ». Ouais. Et la femme qui s'est enfuie, mon cousin, l'enfant rêvé. Yalda, la nuit du pardon, et les héros ne meurent jamais. Dans le courrier de la semaine, désolé Nicolas, mais les apparences de Marc Fitoussi ont déplu à nos auditeurs. Comment, demande Lionel de Cachan, avez-vous pu trouver quelque chose de positif à ce navet? Franck Salomé est surpris par la clémence dont le masque a fait preuve, car rien ne va, aucun rythme, aucun suspense. Benjamin Biolay semble s'emmerder autant que nous, et Karine Viard est très mauvaise, qui ose évoquer Chabrol mérite un supplice lent et douloureux. François Duluc de Maison Alfort a trouvé Benjamin Biolay catastrophique. Il a une seule expression, amorphe, apathique, avec une élocution de fumeur de joint. Que ce type puisse galvaniser un orchestre symphonique me laisse songeur. Et pour Ardo Sanquer, ces 110 minutes m'ont paru interminables. Pas plus tendre, les auditeurs, désolé Nicolas, à l'égard d'Emmanuel Mouret et de son film Les choses qu'on dit. Mais pourquoi, nous demande Cathy Marnier de Nogent, encensé un film aussi neuneux où ça parlote façon romaine. Et vas-y que je te tartine des dialogues creux et bêta avec un peu de Chopin par-ci, par-là. On vous en avait tous dit du bien à Nancy. Hein.
On redit d'ailleurs.
Alain Pastissier de Tours juge ce film bavard et prétentieux. C'est une calcenade soporifique du nombrilisme de Bobo Parigot. En revanche, Catherine Minouchet de Belgique est sortie bouleversée. Ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas fait cet effet. Enfin, alors là je suis triste aussi, Antoinette dans les Cévennes, que j'aime tellement, de Caroline Vignal, en prend pour son grade. Pour Jean-Baptiste Mogar, ils sont très durs les auditeurs. Hein.
Là, ils ont raison.
Parfois plus durs que nous. Oui, ça chaque d'ailleurs dire ça. Grosse ficelle, scénario attendu, musique lourdingue. Et c'est, ajoute Jean-Baptiste Mogar, la petite maison dans la niaiserie. Guy Angela de Mélan en Isère s'exclame, quel ennui, mais quel ennui, n'importe quelle actrice est capable de gueuler sur un âne. Antoinette dans les Cévennes, ajoute Pierre Cusor, est une toute petite chose très sympathique, mais il n'y a pas de cinéma. Heureusement qu'il y a eu Françoise Palot pour trouver le film frais et drôle. Voilà. Quant à Sylvie Darmon, elle nous dit cette chose qui m'a évidemment un peu attristé. Je suis allé voir Antoinette dans les Cévennes, Josep, et les choses qu'on dit, trois films pour elle merveilleux. Malheureusement, nous étions 7 spectateurs, malgré les horaires,
tout.
Vendredi et samedi soir. La pluie et la beauté des salles, c'est en l'occurrence le Balzac dans le 8e à Paris. Franchement, on ne risque pas d'y attraper le Covid. Mais que faut-il faire, ajoute Sylvie Darmon, pour que les gens retournent au cinéma? Je ne veux pas que les salles ferment. C'est un courrier alarmiste, mais...
Elle a raison, parce que c'est vrai qu'on se dit que finalement, le cinéma, c'est un des lieux où on est le mieux protégé, on est face à un écran, il y a de la place autour de soi, on a un masque, vraiment, c'est...
Et puis ces trois films dont on a beaucoup parlé...
Il y a des beaux films. Antoinette
marche très bien.
Hein. Le problème, c'est souvent le film qui
marche très
passe.
Bien, Antoinette. Bah là, pour le coup, ouais, c'est le film qui marche bien, il ne faut surtout pas écouter nos auditeurs. Il faut y aller.
Enfin voilà, ça m'a attristé. Enfin, et puis on en a fini avec le courrier, des messages, beaucoup, dont celui de Elfie Kelson, pour s'étonner que ne soit pas programmé ce soir, ça c'est ma faute, le supra-giga-fou Cagillionnaire de Miranda July. C'est donc un oubli de ma part. Est-ce que j'ai eu tort? Nicolas, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être effectivement le film, le meilleur film qui n'est pas au programme de l'émission, mais il y a une vraie singularité. On avait repéré Miranda July il y a quelques années avec moi, toi et tous les autres, et elle revient après une longue absence. Et c'est vraiment un film assez singulier sur une petite bande d'escrocs américains avec une vraie poésie. C'est vraiment un film sur l'Amérique où tout le monde s'escroque et c'est un peu devenu la norme, et deux personnages féminins qui vont apprendre à s'émanciper, qui vont apprendre à s'échapper de cette condition un peu subie.
Et le titre, ça veut dire quoi, Cagillionnaire?
Alors ça, je n'ai toujours pas compris le titre. c'est un des mystères poétiques du film. Mais oui, vraiment, c'est un film qu'il faut aller voir un petit peu longué, mais vraiment, c'est une vraie curiosité et qui mérite.
Donc, conseillé par Nicolas et par nos auditeurs. Mon cousin de Yann Kounen, vous vous souvenez, Yann Kounen, Doberman, 99 francs, ça ne rajeunit pas, avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascal Arbillot, Pierre, qui est joué par Vincent Lindon, et le PDG d'une grande entreprise familiale de boissons, à laquelle il sacrifie sa femme, ses enfants, bref, sa vie privée. Pierre a un cousin, Adrien, c'est François Damiens, qui détient 18% du capital du groupe et dont il a besoin pour signer un contrat important avec un cru de chez toi, Sophie, un cru bordelais. Autant Pierre est égoïste, tyrannique, autant Adrien est fragile, idéaliste, gaffeur, rêveur. Évidemment, on pense au tandem de Pardieu, Pierre Richard dans La Chèvre. Seulement, voilà, Yann Kounen, me semble-t-il, est un peu moins fait pour ça que Francis Weber. Sophie.
Oui, sur un modèle comme celui-là, d'archi classique d'opposition de caractère, effectivement, on attendait Yann Kounen qu'il mette un peu des imaginations, un peu d'invention.
Et puis un peu de poivre.
Un peu de poivre, un peu de muscle, enfin, je ne sais pas, un peu d'originalité. Et je trouve le film horriblement plan-plan. Quoi. C'est un. Alors, au départ, le film tient un petit peu la route parce qu'il y a une présentation, on plante le décor, on a affaire en effet à deux cas. C'est toujours très très réjouissant de voir ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire deux opposés.
Et puis le couple est plutôt.
Le couple est plutôt réussi.
Vincent Lindon
fait du Vincent Lindon et il est très bien en faisant du Vincent Lindon. Et François Damiens fait du François Damiens, il est très bien en François Damiens. Tu l'as dit toi-même, l'un rêveur qui étreint les arbres et qui rêve d'être en harmonie avec la nature et qui dégouline d'affection et de sensibilité, l'autre qui, encore une fois, tu l'as dit, ne pense qu'à son fric, et en tout cas, pas qu'à son fric, on peut pas le caricaturer comme ça, mais enfin, il est un grand bourgeois avec une société qui...
Un des rares rôles de patron de Vincent Lindon, qui nous habitue à des rôles de syndicaliste militant.
Après les films de Brisé qui s'amusent là à être tout à fait autre chose. Bon, ils sont très bien tous les deux, en effet, et le film démarre très bien. Le problème, c'est qu'il s'arrête là, le film.
Ouais.
Voilà. Alors c'est quand même un peu court. Et on a vraiment le sentiment que Yann Kounen cherche comment il va pouvoir rebondir. Et malheureusement, il n'y arrive pas. Le film devient vite répétitif, revient vite ennuyeux. On a l'impression que Yann Kounen essaie de boucher des trous sans arrêt. Et tout ça pour arriver à une fin qui est à la fois où ils essaient de mettre un petit peu de tendresse, un peu de transgression, un peu de provocation et qui dégouline.
Et ça dure 1h45 quand même.
Ça dure 1h45, on s'ennuie beaucoup, on rit pas beaucoup. Et puis c'est d'une mièvrerie à la fin, franchement.
Plus moi j'ai fait l'expérience, j'ai vu le film et je n'ai vu qu'après la bande-annonce. Il y a tout dans la bande-annonce. Il y a rien de plus. Eric.
C'est plus court.
Ah ben c'est vraiment un film qui patine. Ça n'avance jamais. C'est comme,
ça se répète. Ouais.
C'est comme une voiture où le conducteur voudrait accélérer, mais il a oublié de débloquer le frein à main. Donc ça, les roues fument. C'est deux bons acteurs, mais ça prouve. C'est le contraire de la théorie mathématique. C'est plus par plus. Là, ça fait moins. Ils sont là côte à côte. Ils jouent pas ensemble. Ils jouent en face. Et il y a quelque chose de très très bizarre. L'image est assez propre. C'est joliment filmé. Il y a des moyens. Mais où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? À part le fait que on est sûr qu'après ça, Vincent Lindon va remettre son bleu de travail et quitter son manteau de cachemire parce que ça lui réussit mieux. Mais il y a un truc inquiétant, c'est qu'on voit qu'au générique, Lindon est coproducteur. Il a le droit. Mais on voit aussi qu'ils sont trois à avoir écrit les dialogues, dont Lindon. Et ça augure un scénario.
J'ai pas vu ça.
Ah si, si, si.
Il a co-écrit les dialogues,
tous les trois.
C'est le problème du film.
C'est beaucoup trop. Donc on sait pas où le film va aller. À un moment, il y a une scène là, dans un château bordelais, un dîner qui aurait pu être à la Paul Jégoff. Mais tout est tellement téléphoné que...
C'est là que j'ai cherché ce film.
Et tout est trop long.
Dans ce château, puis je l'ai pas vu.
Il tire à la ligne, il tire à la corde. Et puis là, on a vraiment envie de dire, Francis Weber revient. ils sont devenus fous ou pas assez fous, je ne sais pas.
Nicolas ?
Ben c'est ça, c'est que c'est vraiment un film d'acteur-producteur, et je pense qu'il y avait peut-être un projet différent là au départ, et Kounen le dit lui-même, c'est vraiment son producteur qui lui a mis entre les mains, et c'est un film qui est beaucoup trop sage, c'est un film qui veut un peu célébrer la folie à travers un personnage et un scénario qui reste vraiment trop sage, et qui veut un peu remuer ce personnage de bourgeois, mais sans trop le bousculer, et moi, autant, je m'attendais à une catastrophe, parce que on ne m'a pas voulu me montrer le film, je suis allé le voir en salle, l'attaché de presse n'a pas voulu me le montrer, donc je me suis vraiment dit, ça augure quand même du pire, et la première heure, comme vous l'avez dit très bien dit, il y a des bons acteurs, c'est quand même plutôt bien filmé pour une comédie, pour une fois, Weber, il pourrait prendre des cours sur la manière de quand même, le talent de filmage. Mais il y a quelque chose de très sage, j'ai l'impression que Lindon a un peu parasité le film, comme ça, il a voulu ne pas aller trop dans, que son personnage soit toujours crédible, on voit qu'il y a un soin aussi dans ça.
C'est un film de Yann Kounen, c'est pas un film de Lindon.
Oui, mais Kounen, on sent qu'il s'est amusé dans les scènes de rêve. Voilà, il y a des scènes de rêve qui sont pas très inspirées, mais où il s'amuse un petit peu, mais c'est presque hors sujet. Et surtout, à la fin, le film devient, tout le long du film, il y a des petites piques comme ça, une petite critique de ce personnage capitaliste, indifférent finalement, à l'environnement, à son entourage et à tout ça, insensible. Et finalement, on arrive à une espèce de petite réconciliation filiale qui s'arrange assez complaisamment de tout ce qu'il a critiqué avant, que je trouve, qui montre que c'est un film qui sait pas trop où il va, après qui n'est pas aussi catastrophique que bon nombre de comédies françaises du genre qu'on voit tous les jours, quoi.
Pierre.
C'est-à-dire que vous attendiez, semble-t-il, quelque chose de Yann Kounen. Moi, j'attendais absolument rien de Yann Kounen, qui est un très mauvais réalisateur, et il le prouve encore là. Moi, j'aime beaucoup, comme vous le savez tous, la caméra qui bouge. Hein. Mon maître, c'est Max Ophüls, ça bouge tout le temps. Mais Yann Kounen n'est pas Max Ophüls, parce que là, sa caméra bouge tout le temps, mais on ne sait pas pourquoi. Il arrive là, il prend Lindon, il quitte Lindon, il s'élève dans les airs, il retourne, panoramique dans tous les côtés. C'est filmé avec les pieds. C'est un des plus mauvais réalisateurs qu'on ait actuellement. Donc, je suis presque, comme toi, heureusement surpris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un scénario ultra classique, que vous avez parlé de Francis Weber, oui, c'est l'emmerdeur aussi, d'une certaine façon.
Oui, absolument.
C'est ultra classique et tout. Mais, alors, c'est sauvé quand même en grande partie par deux comédiens, parce que je trouve que et François Damiens et Lindon font que leurs personnages, ils se donnent un mal de chien, ça se sent peut-être un tout petit peu par moment, mais grâce à eux, ça devient un petit peu respirable, et il y a une très belle scène dans un avion en perdition, qui est là, vraiment, très, très, très réussi. Et rien que pour ça, je suis un peu moins... Enfin, je m'attendais à une telle catastrophe qu'évidemment, je suis sorti en disant « Bon, ben, il y a une ou deux scènes avec des voitures aussi où il se trompe, il va annoncer des catastrophes, et puis les catastrophes se produisent. » Il y a une petite tentative de burlesque.
Il n'avait pas annoncé celle du film.
Oui, mais n'empêche que, je trouve que c'est bien, et les deux acteurs sont vraiment épatants.
Les actrices aussi.
Pierre ne nous a pas dit avec un tel sujet, Mankiewicz aurait fait un chef-d'œuvre.
Max Ophüls, là, maintenant.
Oui, Max Ophüls, j'en parle pas. Non, mais
c'est pour dire que de Yann Kounen, L'enfant rêvé de Raphaël Jacoulot, avec sorti cette semaine avec Jalil Lespère, Louise Bourgoin, Mélanie Doutet, qui cette fois nous conduit dans le Jura, où François, c'est Lespère, dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, qui est Mélanie Doutet. Ils veulent avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas. Ils pensent même à un moment donné adopter. C'est alors que François rencontre Patricia, c'est Louise Bourgoin, fraîchement débarquée dans la région avec son mari et ses deux filles. Ils ont une liaison et très vite, Patricia, je vous le donne en mille, tombe enceinte. Donc ça se bouscule un peu dans la tête de François. Pierre.
Alors, juste pour dire que j'ai vraiment une grande sympathie pour le réalisateur, parce qu'il avait fait un film qui s'appelle Avant l'aube, qui était très réussi, mais il avait réussi à créer un climat à la Simenon autour des personnages. C'était très bien, et on retrouve des traces de ça ici, lorsqu'il filme, par exemple, la nature. C'est un des rares cinéastes qui sait très très bien filmer les forêts. Il y a des plans de forêt absolument époustouflants. Alors, le problème de ces plans de forêt, c'est qu'il met brusquement au milieu de la forêt un couple qui fait l'amour. Ça, c'est peut-être pas extrêmement bien à poil dans les forêts.
C'est pas l'endroit.
C'est pas ça, c'est que ça, on revient
dans les clichés.
Et donc, il a pas peur, surtout, Raphaël Jacoulot, d'un scénario construit. Il aime raconter des histoires. Le petit problème ici, c'est que l'histoire n'est pas très, très, très passionnante. Ça rappelle vraiment le mauvais cinéma des années 50 qu'il aime beaucoup, que moi aussi j'aime beaucoup. Mais là, dans les années 50, c'est un film qui aurait été joué par Daniel Gélin, Nicole Courcelle dans le rôle de la femme, et peut-être pas Bardot, parce que ça aurait été trop fort. Non, non. On aurait mis Pascal Petit, parce qu'elle avait une sensualité, comme ça, etc. Ou Mylène de Mongeau. Voilà. C'est ça. Mylène de Mongeau aurait été parfaite. Donc c'est très vieillot. Et je comprends pas comment il n'arrive pas avec le talent qu'il a et qu'on qu'on a vu dans ses films précédents, a transcendé cette histoire qui n'a pas beaucoup d'intérêt, des personnages qui sont vraiment très pâles, et du coup sa mise en scène s'en ressent, et je suis très déçu.
Eric.
Je trouve Pierre un peu sévère, parce que c'est un des rares metteurs en scène qui sache filmer la province, comme on n'a plus le droit de dire, déjà dans Coup de chaud, là, son film précédent.
Ben oui.
On sentait bien
ben
ça.
Oui. Oui,
et là, on voit ce que c'est qu'une petite ville où tous les gens se connaissent, où on se croise, on est obligé de se dire bonjour, de s'inviter à des apéritifs, avec tout le non-dit que ça suppose. Et il sait aussi montrer des gens au travail. Ça, c'est tellement rare dans le cinéma français. Là, on voit vraiment ce que c'est que d'abattre des arbres, de faire des planches, de vendre des terrasses en bois, et ça c'est très intéressant. Le travail, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pierre a évoqué Simenon, et moi j'ai pensé à ce que Simenon appelait dans ses romans l'homme nu. Ce gars-là, il se retrouve à poil parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme légitime, et sa maîtresse tombe enceinte, et tout d'un coup, tout se mélange dans sa tête, c'est une chute, il coule, et il coule dans un endroit où tout le monde va être au courant, et le décor, le paysage, tout ça concourt au désespoir de ce gars-là. Et surtout, il y a Mélanie Douté qui trouve enfin un rôle. Là, elle est sidérante en épouse blessée.
Le rôle est quand même
en petit taureau malheureux.
Sidérante est peut-être un peu excessif.
Non, je l'ai trouvée très très bonne là-dedans.
Elle est formidable. Mais...
Sophie.
Les deux actrices, je trouve, sont très bien. Louise Bourgoin aussi est très bien. Mais le problème, pour moi, il n'est pas là du tout. Le problème, il est ni dans l'histoire, que je trouve plutôt qui aurait pu être très bien, et le sujet sur la... Le désir de paternité d'un homme, c'est un sujet qui, moi, me paraît intéressant. Alors, oui, je suis d'accord sur la façon dont Jacques Coulot filme la province, filme les paysages, avec cette forêt qui annonce la tragédie, en quelque sorte.
Ça peut être une histoire de Mauriac, tout à fait, d'un roman de Mauriac. Hein,
absolument, on pense à une forêt, aux arbres, aux pins des Landes.
Même l'intrigue, c'était...
Mais le problème, il n'est pas là. Il y a deux problèmes énormes. Le problème, c'est la temporalité. Il est incapable de... J'aime pas le mot gérer, mais il est incapable de manipuler le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on croit qu'elle est à peine à 2 mois et elle est déjà sur le point d'accoucher. Enfin, il y a un vrai problème de temps. Or, le cinéma, c'est quand même du temps.
Il y a une ellipse, il y a une grosse ellipse.
Il y a une grosse ellipse, oui, mais justement, la dramaturgie ne marche pas, parce qu'on se dit, là, il y a un problème. Mais ça serait mineur, mais le vrai gros problème, c'est le personnage de François. C'est un vrai gros problème, parce que ce personnage, il est tout, ne passe que par le filtre de son obsession d'être père. Tout, ses rapports avec son père, ses rapports avec sa femme, ses rapports avec sa sœur, ses rapports avec avec sa maîtresse, tout n'en passe que par cet unique tuyau, canal, filtre qui est l'obsession de la paternité. Donc il est au fond...
Mais c'est plausible, c'est possible.
Non, parce que la profondeur d'un personnage, elle est obligée d'en passer par des nuances, par des reflets. Je veux dire, il en fait Jacques Coulot, il veut sans doute bien faire, mais il dessine un profil psychologique qui est au service de son histoire. Donc c'est une marionnette. Donc ce qui devrait être un personnage qui pourrait être fragile, émouvant, comme dit Eric, on pourrait dire il est perdu, le pauvre diable et tout, mais il est hyper agaçant de veulerie, c'est le portrait d'un pauvre type, quoi. Ça finit par ressembler à ça. Et c'est d'autant plus dommage qu'en effet, je tiens à sa part Nicolas, qu'en effet, il est avec deux femmes qui, elles, sont justes, vivantes, et les deux actrices sont formidables.
Et Nicolas.
Et alors, je te rejoins, mais moi j'ai un diagnostic inverse, c'est-à-dire qu'effectivement les actrices sont formidables, mais leurs rôles sont sous-écrits, et c'est pour ça, parce que le film adopte clairement le point de vue de François, de Jaïd Lespère. Sauf que le vrai problème, c'est le dernier acte du film où on bascule dans une espèce de tragédie et où le personnage est censé sombrer dans une forme de presque de folie. C'est son obsession de paternité, elle frise la folie, et on est censé croire à une histoire d'amour à la dernière minute, à laquelle on ne croit pas tant que ça.
Non, mais c'est pas ça qui peut dire.
Mais c'est dommage que vraiment le dernier acte du film, est vraiment très très problématique. Alors que je trouve que dans la première partie du film, la manière dont il montre comment l'étau se resserre sur ce personnage qui, à la fois, qui voit le ventre de sa maîtresse grossir et en même temps sa femme qui cherche à adopter. Il y a une scène formidable qui, pour moi, est le basculement du film. C'est quand il passe un entretien pour avoir l'agrément pour adopter avec sa femme, et il transfère en fait l'amour qu'il imagine donner à cet enfant qui s'apprête à naître, mais qui ne peut pas, qui lui est interdit d'une certaine manière, l'hypothèse et cet enfant qu'il peut-être il va adopter. Et là, je trouvais que le film avait vraiment une piste passionnante sur cette obsession de paternité, et il finit par sombrer dans le côté Simenon, le côté Polar 2, un peu à la Chabrol, et qui n'est pas du tout crédible. Il y a vraiment un basculement de film qui est vraiment très très problématique.
L'enfant rêvé, c'est signé Raphaël Jacoulot. Les héros ne meurent jamais, d'Aude Léa Rapin, une production franco-belgo-bosniaque avec Adèle Haenel, Jonathan Cousinier, Antonia Burezi, Joachim, c'est donc Jonathan Cousinier, croise un jour dans Paris un mendiant d'Europe de l'Est qui croit reconnaître en lui un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. C'est le jour exact de la naissance de Joachim, lequel, certain d'être sa réincarnation, part alors pour Sarajevo avec Alice, Adèle Haenel, qui est dans le film documentariste, et Virginie, c'est-à-dire Antonia Burezi, qui est preneuse de son, un film de fiction donc qui lorgne ouvertement vers le documentaire, d'où vient d'ailleurs Aude Léa Rapin. C'est court, hein, ça dure 1h25, j'ai eu du mal à croire à cette histoire. Eric.
Bah, les héros ne meurent jamais, mais c'est bien le problème. On aimerait qu'ils meurent beaucoup plus vite que ça. Alors, Sophie parlait d'un problème de temporalité dans le Jacoulot, mais alors là, c'est un truc à s'arracher la tête d'ennui. J'ai été une souffrance. D'ailleurs, mardi dernier, on était deux dans la salle. Moi, j'ai été obligé, à cause du masque, de rester jusqu'au bout, mais il y a un monsieur qui est resté aussi jusqu'à la fin, et j'aimerais le retrouver pour lui offrir un verre de champagne pour son mérite, sa vertu, parce
peut-être
que c'est vraiment un film d'un inintérêt total.
Peut-être qu'il dormait aussi, hein, il s'est pas réveillé.
Ah, peut-être, ouais. Moi j'ai essayé de dormir, je n'y suis pas arrivé. Non, mais c'est un film totalement bancal, prétentieux, sur la réincarnation, sur la guerre en Bosnie, un mélange de road movie, de documentaire, de fiction, c'est chichiteux, les dialogues sont mal écrits, l'acteur est mauvais comme un cochon. Adèle Haenel, on se demande ce qu'elle fait là. D'ailleurs, elle aussi, elle aurait dû faire comme au César, dire « je me barre, on s'en va, c'est la honte ». Eh ben non, elle n'a pas osé, elle est trop bien élevée par moment. Non, je me demande comment, en 2020, on peut encore tourner des films comme ça. On a envoyé dans les années 70 au Saint-André-des-Arts, à la séance de midi. Mais vraiment, pourquoi faire ça? Elle n'est pas faite pour ça du tout, cette fille Rapin.
Pierre.
Ah, c'est désarmant. C'est au-delà du soutenable. C'est désarmant, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai cru un instant que longtemps, que c'était un film bureau. Parce que le petit groupe là arrive à Srebrenica et ils disent à un moment donné, ah, c'est du Gruyère, c'est un immeuble bombardé. Je me suis dit, ah, c'est comique. Je me suis dit, on est chez la vieille série Les Denigos. Vous savez, il y avait une vieille série avec Abbott et Costello qui était Denigos à Hollywood, Denigos contre les vampires. Non, mais ils sont tellement bêtes.
Denigos à Sarajevo.
À Sarajevo en l'occurrence. La réalisatrice prend le prétexte que c'est pas elle qui filme, mais c'est un caméraman qui filme. Donc, du coup, alors là, ça part dans tous les sens. C'est filmé n'importe comment. Bien sûr, c'est pas grave, puisque c'est pas un film. C'est le film que réalise le réalisateur. Donc, le chef, c'est n'importe quoi. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est vrai qu'on n'est pas là pour donner des conseils aux jeunes réalisateurs, mais simplement peut-être leur dire simplement que, avant de mettre leur nombril, aussi généreux soit-il, sur l'écran, peut-être qu'il faudrait juste qu'ils voient quelques films. Le cinéma n'a pas commencé quand ils avaient 16 ans. Il y a des films qui existent avant, qu'ils lisent des livres, qu'ils aillent au théâtre, qu'ils se cultivent un tout petit peu. Et ensuite, ils écriront des trucs qui seront certainement formidables. Mais là, c'est indéfendable.
Là, je te rassure, même avec ce sujet-là, Mankiewicz n'en aurait rien fait.
Rien. Elle n'aurait pas tourné.
Tu lui fais un procès d'intention parce qu'elle a peut-être vu des films.
Elle a voulu faire du cinéma en croisant Godard à Sarajevo.
Ah, les mauvais alors, parce que.
Elle a croisé Godard à Sarajevo, c'est ça qui lui donnait envie de faire du cinéma.
Ça explique.
Je suis désolée, mais moi j'aime beaucoup le film. Je trouve pas que c'est n'importe quoi. Eric, tu as dit que c'était prétentieux, c'est tout sauf prétentieux.
Si, c'est prétentieux.
Non, c'est pas prétentieux parce que sur un sujet comme ça, elle prend au contraire le registre de la modestie la plus totale. Ça démarre, tu as raison, c'est pas loin du burlesque au début. On est dans une sorte de truc complètement farfelu, complètement loufoque, avec ce type qui se dit il faut que j'aille chercher cette tombe du soldat inconnu puisque ça correspond à ma date de naissance. Et à partir de ce registre extrêmement modeste, c'est une bande de bras cassés. On est plus dans la virée entre potes au départ que dans l'épopée mystique.
Hein. Ah, ça, c'est
et
sûr. Oui.
Petit à petit, dans ce faux vrai reportage, eh bien le réel rentre et la fiction aussi, et les deux se mêlent. Et il y a l'anniversaire de Srebrenica, du massacre de Srebrenica. Il y a des rencontres avec des gens qui ont été endeuillés, qui ont connu la mort. Et petit à petit, le film se charge comme ça, en émotion, et va vers une chose que je trouve très belle, qui est le royaume des morts. On va essayer de voir où sont passés les défunts, où sont les gens qu'on aime, où sont passés. Et dans sa modestie, encore une fois, c'est vrai que c'est un petit film.
Tu es admirable.
Mais je suis pas admirable. Je me suis pas ennuyée une seconde. J'ai trouvé ça. Dans sa modestie, encore une fois, très bien fait, très bien fait. Je regarde.
Non, mais je t'admire, je t'admire.
Il n'y a pas de quoi.
Mais je t'admire parce qu'elle
avoue qu'elle est non seulement admirable, mais en plus courageuse.
Ah oui.
Parce que vraiment, Nicolas.
Bah, j'aimerais bien rejoindre Sophie,
mais pourquoi?
Non, mais parce qu'effectivement, c'est un premier film qui a le mérite de tenter quelque chose, mais qui pour moi le rate assez totalement, et c'est assez dommage. Effectivement, elle lance plusieurs pistes. Elle fait à la fois une forme de faux documentaire avec des vrais gens là-bas. Alors c'est des acteurs, mais on sent quand même qu'il y a aussi autour beaucoup de figurants et de gens de là-bas qui elle est effectivement un documentaire précédemment où elle avait été à la recherche d'un soldat disparu, donc on sent qu'elle est imprégnée de ça. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas vraiment. Elle bascule après une tonalité très pieds nickelés, justement, de faux documentaire elle amène une espèce de forme de dérision et de décalage.
Oui, il y a beaucoup d'humour.
Et ce mélange de tonalités ne fonctionne pas du tout. Et alors on voit bien qu'elle veut un peu mettre en parallèle et en tout cas faire se rencontrer ces petits Parisiens qui se prétendent cinéastes, documentaristes et qui n'ont pas vraiment de grands problèmes avec ce grand sujet qu'est la guerre de Bosnie. Et en même temps, voilà, il y a des enjeux qui sont trop gros pour le film. Et je trouve qu'elle n'arrive vraiment pas à basculer d'une tonalité à l'autre. C'est vraiment très très problématique. Et Adèle Haenel, on a l'impression parfois où elle se demande ce qu'elle fait là, quoi. Enfin, il y a vraiment, elle est là vraiment comme la.
D'ailleurs, on l'a pas vu au cinéma depuis un bon bout de temps. Hein.
Bah, mais après, c'est un film qui était à la semaine de la critique il y a un an et demi. Enfin, qui a mis du temps à sortir.
La Bosnie n'avait pas besoin de ça. Hein.
Les héros ne meurent jamais. C'est signé Aude Léa Rapin avec Adèle Haenel. Ah, enfin un film qui m'a plu. Yalda, la nuit du pardon de l'Iranien. Massoud Bakshi avec Sadaf Asghari, Benal Jafari, un film qui nous vient donc d'Iran et qui nous fait vivre en temps réel, c'est-à-dire 1h29 sur le plateau et en coulisses, une hallucinante émission de télé, comme il en existe plusieurs de ce type en Iran, où des condamnés ont l'occasion de sauver leur peau. Je résume, pour la vie tapé 1, pour la mort tapé 2, puisque ce soir-là, soir de la fête de Yalda, où on célèbre le solstice d'hiver, l'animateur, plutôt élégant, reçoit Mariam, 22 ans, que des policiers ont amené menottée au studio. Elle a tué, de manière accidentelle, son mari, Nasser, un publicitaire de 65 ans, dont elle était enceinte. Et après 15 mois de prison, condamnée donc à la peine capitale par pendaison, elle doit obtenir le pardon de Mona, la fille unique de Nasser. Si elle l'obtient, donc elle aura la vie sauve. Et en plus, les sponsors vont verser à la famille de la victime le prix du sang. L'épilogue, évidemment, je ne vais pas vous le raconter. Sachez simplement que l'affrontement des deux jeunes femmes se double d'une lutte des classes féroce entre Mariam, qui vient d'un milieu très modeste, et Mona, qui est donc la riche héritière. Sophie.
Le film est très surprenant et passionnant parce que le sujet est très fort, quoi. C'est vrai que non seulement on découvre cette justice populaire.
Qui existe, hein.
Qui a existé. Enfin, l'émission n'existe plus, mais enfin, il s'en est inspiré.
Il y a des émissions de ce type-là.
Enfin, c'est de la télé-réalité, mais appliquée à un droit propre à l'Iran, qui est complètement aberrant pour nous, notamment au regard du droit français. Évidemment, c'est complètement aberrant que la partie civile soit là à qui on demande le pardon. Enfin, ça.
Et à la fin du film, enfin à la fin de l'émission, t'as le procureur qui vient pour signer les papiers en fonction du résultat.
Mais là où le film me semble très passionnant quand même, c'est que au-delà de ça qui est propre à l'Iran, il dit des choses aussi sur nous, sur nos démons, sur la télé-réalité. C'est un film qui dit aussi attention, parce que le populisme, le fait de préférer l'émotion à la raison, ça nous guette aussi. Le fait, les réseaux sociaux, les clics, les likes, etc. C'est aussi quelque chose qui guette l'Occident. Tout ce qui nous fait horreur dans cette justice rendue comme ça, la loi du talion comme recours, bah c'est quelque chose qui nourrit les populismes et qu'on voit s'épanouir en Europe. Bon, donc l'Iran est certes pas en Occident, mais malgré tout, ça nous parle.
Tout ça est entrecoupé de chansons de variété. C'est un show très obscène, quand même.
C'est incroyable, parce que cette gamine qui a 22 ans et qui va être pendue si elle obtient le pardon, prise en sandwich entre une mauvaise chanson et un peu de pub, c'est effectivement obscène, quoi. Et avec les gens qui en plus regardent ça religieusement, c'est le cas de le dire, parce que la religion y est aussi pour beaucoup. C'est quand même la nuit du pardon et c'est une fête religieuse pré-islamique. Bon, bref. Donc tout ça est très passionnant. Après, je me suis quand même surprise à me demander ce que Asghar Farhadi aurait fait du même sujet. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal, Massoud Bakshi, à réconcilier ces deux espaces que sont le show en direct et les coulisses, où il essaie de mettre du cinéma, où il essaie de donner des clés aux spectateurs et où il y a un retournement de situation, on ne peut pas en dire trop, mais où il y a un retournement. Et au lieu de s'unir et d'arriver arriver à faire donner une vraie tension dramatique au film, les deux se rencontrent et se heurtent et s'annulent un petit peu. Et ça affaiblit, à mon avis, le film qui pourtant est
je comprends ce que tu veux dire, mais quand je vois les films dont on parle depuis le début de cette émission et ceux qui vont venir.
Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai bien pris la peine de dire que c'est
le chef-d'œuvre.
Passionnant.
Nicolas.
Je préfère presque la première partie où il y a toute l'installation, la préparation de l'émission, qui est très clinique, qui est très sobre. Presque, je crois qu'il vient du documentaire, le réalisateur, mais il y a vraiment, oui, ce côté, comme ça, il assez distancié, les faits sont là. Après, à partir du moment où démarre l'émission, on sent qu'il accumule quelques rebondissements qui sont un petit peu presque théâtraux et presque un peu grossiers, tellement la première partie est forte et elle se suffit à elle-même presque de montrer cette émission.
Mais en même temps, il faut bien voir ce show. Pour en comprendre l'obscénité.
Il passe en coulisses, il se passe des choses, des petits coups de théâtre et des choses qu'on sent qu'il veut amener de la fiction de manière un peu maladroite parfois. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a la lutte des classes prend le pas presque sur le sujet de la télé-réalité et de ce principe de taper un pour sauver ou taper deux pour le condamner. Et alors après, moi, j'ai un problème avec les fins de tous les films cette semaine. Moi, cette fin, je vais pas, bien sûr, pas la révéler. Mais je la trouve assez problématique. C'est-à-dire que le film manque de nuances pour que la fin ne pose pas problème
Voilà. Pierre.
Moi, je fais pas de nuances. Non, je trouve ça formidable. Je trouve que quand on film comme ça,
ce soir, c'est de l'or, ce film.
Bah, voilà. Non, mais c'est ça. C'est le film qu'il faut que vous alliez voir, me semble-t il. Un conseil, c'est celui-là.
Après, on va parler de mon grand-père.
Non, alors, bien sûr qu'on peut dire trouver ça un peu mélo. Je comprends très bien ce que dit Sophie sur Asghar Farhadi. Mais moi, Asghar Farhadi, à part une séparation. Ce qui remonte là,
c'est formidable. Hein.
La fête du feu qui était magnifique aussi.
Non, c'est les derniers qui étaient. Asghar Farhadi, depuis quelques films, moi je l'avais trouvé très 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 en deçà, personnellement. En tout cas, moi je me fiche un petit peu des imperfections s'il y en a. Le sujet est tellement fort parce que quand on a un réalisateur aussi audacieux, aussi courageux qui fait un film comme ça, il faut aller le soutenir et il faut dire d'y aller. Mais au-delà de ça, au-delà des péripéties et tout, tu l'as dit, Sophie, ça dépasse aussi l'Iran,
et
c'est la société du spectacle, notre société du spectacle, telle qu'elle est pratiquée. Alors bon, c'est pas tout à fait la mort tapée 1 ou tapée 2, mais ça revient au même.
Et moi, toute la soirée, le producteur compte le nombre de centaines de milliers de téléspectateurs qui s'ajoutent.
Et puis
le personnage de la sœur est tout à fait, la sœur, celle qui peut pardonner, est tout à fait passionnant parce qu'on la voit hésiter. Elle veut pas pardonner, puis elle est obligée de pardonner.
Pas la sœur, la fille.
La fille, dont on sait pas, on se devine que c'est pas tellement ses convictions qui l'emportent, mais l'appât du gain aussi, enfin, la peur de quelque chose qui va arriver. Autrement dit, c'est un film passionnant et qui nous renvoie à nous, à notre société du spectacle. Absolument. Je trouve que c'est vraiment un film à voir absolument.
Eric.
On voit que c'est beaucoup plus risqué de passer dans cette émission que de participer à The Voice, parce que là, on risque vraiment sa peau. Non, parce que c'est les dérives de la télé-réalité. La dinguerie d'une émission comme ça qui a existé en Iran, mais c'est aussi la folie de leur système judiciaire. Le prix du sang, toutes ces histoires, c'est quand même très aberrant. Et on voit que cette fille est coincée entre les pesanteurs de l'archaïsme et les dérives de la modernité. Là, aller participer, essayer de sauver sa peau dans un décor à la Ardisson des années 90 avec des fauteuils en velours de faux
châteaux-forts,
c'est quand même très très vulgaire, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Et le sujet porte tout ça à bout de bras, parce que effectivement le côté cinématographique n'est pas bouleversant, mais le sujet en lui-même est tellement fort, original, que c'est deux femmes en colère qui défendent chacune quelque chose, parce que la méchante, la fille de...
Qui sont d'ailleurs toutes les deux très bonnes, notamment Mariam, la petite de 22 ans
est excellente, et l'héritière du père assassiné, avec son physique de méchante
reine. Benaz Jafari qu'on avait vu chez...
Elle est très très étonnante, et on voit tout ce que... Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient commettre un crime pour passer dans une émission comme ça. C'est ça le drame où on en est aujourd'hui. Et on voit que l'Iran, ils sont pas sortis de l'auberge. C'est pas tellement un truc sur nos sociétés, c'est vraiment ce qui se passe dans ce pays.
Ça peut être une formule qui n'est pas très loin de ce qu'on peut voir parfois à la télévision américaine aussi.
Non, mais c'est le film de la semaine.
Et là, merci.
Et c'est un peu ce qu'on fait au masque.
J'insiste un peu, c'est que je trouve que... vu le programme, et cette semaine, vu ce qui est à l'affiche des cinémas, il faut pousser les gens à aller voir Yalda, la nuit du pardon, de Massoud Bakshi. Là, on va aller très vite, parce que franchement, c'est hallucinant. C'est mon grand-père et moi, de l'américain Tim Hill, à qui on doit, encore que le verbe convienne mal, des films aussi dispensables que Les Muppets dans l'espace ou Joyeux Noël, Grumpy Cat. Le plus étonnant, enfin, le plus surprenant, disons ici, c'est qu'il a quand même embarqué ce Tim Hill dans son affaire Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken. Alors, le grand-père, c'est Robert De Niro, enfin, ou ce qu'il en reste, veuf, malade, qui emménage chez sa fille, qui est jouée par Uma Thurman. Problème, il occupe la chambre de son petit-fils de 10 ans qui n'accepte pas d'être relégué au grenier, qui donc va faire la guerre à son papy pour récupérer son lit. Ça, c'est le suspense principal. Hein. Tous les coups sont permis, tous évidemment plus bêtes les uns que les autres. J'ai voulu à un moment les noter, puis non, je peux pas. C'est filmé totalement façon sitcom. Et moi, je pensais, évidemment, devant mon écran, que quand on pense que De Niro et Christopher Walken ont partagé l'affiche en 78 de Voyage au bout de l'enfer, bah on se dit que le temps qui passe est vraiment cruel. Très cruel.
La roulette russe, c'est la place à la balle au prisonnier.
Nicolas.
Oui. Bah non, mais je pense que quelque chose se cache derrière ce film, une opération de blanchiment des points retraite ou je ne sais. Mais c'est.
Ah, c'est possible ça.
C'est. Voilà, je pense qu'ils.
Enfin, encore que ça fait des années que De Niro ne fait plus que ce.
Bah ça fait 20 ans à peu près. Ouais, je dirais 20. Mais non, mais là c'est terrible, effectivement, de voir Walken des années après, qui est plutôt assez sémillant encore, mais qui est. Mais c'est. Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression de voir un film qui aurait pu passer sur Gulli, la chaîne pour enfants, un dimanche après-midi, mais sauf qu'on y a, comme dans Irishman, on a mis numérique, j'ai l'impression d'avoir mis, qu'ils ont mis numériquement des stars dans le film, qu'ils ont incrusté dans un film complètement anodin, inodore, pour, j'allais dire pour les enfants, mais même pas, enfin, il y a même pas d'invention, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus, que c'est triste de voir ces acteurs-là, il y a Jane Seymour aussi qui apparaît, ouais. Qui passe par là, il y a Uma Thurman, on l'a dit, non, c'est souvent les acteurs, ces stars-là, quand elles tournent dans ces films, elles disent « Ah, je veux faire un film familial pour mes petits-enfants, pour mes... » Moi, je pense qu'ils ont surtout des problèmes d'impôts, et ils ont un train de vie un peu trop...
Moi, je me disais, enfin, actuellement, tous les films américains sautent les uns après les autres, hein, parce qu'ils sont même James Bond. Maintenant, celui-là, il nous le laisse.
Il s'est glissé. c'est assez hallucinant que ça sorte. C'est hallucinant que ça sorte en salle. Oui, c'est incompréhensible.
Sophie.
Bon, en même temps, quand on va voir Mon grand-père et moi, on sait qu'on va pas voir du Bergman, tu vois. Enfin,
mais Mon beau-père et moi, c'est beaucoup mieux.
Non, mais oui, encore une fois, j'en reviens à la fiche des comédiens.
Pour le coup, alors tu vois, pour le coup, je me demande même si je préfère pas ça à mon cousin, quoi. Parce que pour le coup.
Quoi?
Non, mais parce que le film est lourd. Le film est formaté. Le film est tout ce que tu veux. C'est sûr que c'est pas la dentelle, j'ai pas pris de plaisir à le voir, mais bon, je trouve étonnant que vous vous étonniez que De Niro, Uma Thurman et compagnie, Christopher Walken tournent dans ces films-là. Ce ne sont que des acteurs, ils ont envie de jouer. Je pense que plus que les impôts et tout ça, ils ont juste envie de jouer et ils ont envie d'une partition. Et là, ils ont le sentiment d'avoir une partition. Alors, je suis d'accord que le film est quand même avec des ficelles grosses. Je veux difficilement le défendre. Mais ça me paraît pas non plus scandaleux ni complètement. J'ai lu sur ce film-là un sérieux dans la critique comme un film consternant, catastrophique. Bon, on sait ce qu'on va voir quand on va voir ça. Ça s'assume comme tel. Il y a aucune prétention artistique. C'est pas très drôle. Oui, moi je
mais
pense que
c'est.
Mais
on voit la télé un dimanche.
Oui, voilà. Excusez-moi. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut aller le voir.
Non, on n'est pas obligé non plus.
Je dis juste qu'il n'y a pas de quoi non
plus. On tombe dessus.
Tomber à genoux en disant mon Dieu comment c'est possible, oui c'est possible, la preuve, et ça risque de marcher en plus, enfin c'est pas sûr parce que c'est pas dans
les salles. Je suis même pas sûr,
parce que les exploitants ne croient pas beaucoup et j'ai l'impression que même les salles ne le sortent, ils ne sortent pas dans beaucoup de copies.
Pierre,
c'est un acteur, mais c'est important les acteurs.
Oui, Sophie. Mais je te dis ça parce qu'on se demande toujours pourquoi, parce qu'ils aiment jouer.
On se plaint à juste titre qu'Hollywood ne donne plus des rôles de femmes qui ont passé 50 ans. Ben, on devrait leur interdire de donner des rôles à des mecs qui ont dépassé 70, parce que ça serait mieux pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est si on résume le scénario un petit peu différemment, c'est l'histoire d'un gamin.
Oui, c'est d'accord.
Un gamin insupportable dans une famille conne de petits bourgeois américains qui a une chambre, n'est-ce pas? Alors que ses deux sœurs, elles, sont obligées de partager une chambre toutes les deux. Mais lui, le petit mâle, il faut qu'il ait sa chambre à lui. Et donc, brusquement, il y a le grand-père qui arrive là et il fait la guerre à son grand-père parce que son territoire...
En plus, le grenier est pas mal, hein.
Mais le grenier est très, très
mal. Quelques rats, c'est tout.
Bien réaménagé, non, mais pas mal.
C'est un sale petit con dans une famille.
Oui, mais bon.
Attends. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que ça prône.
Le gamin, lui bousille, il est bousillé, ça bouffe au papy. Tu te rends compte ce qu'il lui fait? Il fait des choses, mais dégueulasses.
Non, mais c'est un petit monstre.
Il y a à la fin, il y a un match de
balle aux prisonniers.
Le balle aux prisonniers entre les vieux et les jeunes, les gamins et les jeunes, qui est un...
On plaint le ballon.
Non, mais c'est pathétique. Sophie, hein. C'est pas pour moi du tout un film insignifiant, c'est un film absolument dégueulasse, vraiment, sur ce que ça dit.
Il y en a des dizaines qui sortent aux États-Unis tous les mois, des comme ça.
Éric.
C'est tellement triste de voir De Niro dans un rôle dont même Galabru n'aurait pas voulu. Hein. C'est effarant de voir ça.
Alors là, tu t'avances. Hein.
Mais Galabru n'a jamais tourné dans Voyage au bout de l'enfer, je crois. Et voir aussi Uma Thurman qui se prend maintenant pour Annie Cordy. Le film est quand même un truc, mais c'est du cinéma en déambulateur. Et puis au bout d'une demi-heure, on voit apparaître Claudie Kahn, Christopher Walken, mais mon gars, on a envie de lui dire, être à ce générique, c'est pire que de se tirer une balle à Hanoï à l'époque.
Oh non, t'exagères là, non.
C'est épouvantable ça. Et il faut absolument que les scientifiques trouvent une solution à ce virus, parce que les Américains ne nous envoient que ce film-là depuis 6 mois. Alors c'est vraiment dégueulasse. Faut les renvoyer chez
eux. Ils préparent la suite pendant le confinement.
Non, et puis en plus, le titre est mensonger. Parce que c'est pas du tout le titre américain. Mon grand-père et moi, c'est pour que les gens pensent que ça fait partie de la série Mon beau-père et moi.
Oui, bien sûr. Le film en anglais, le titre en anglais, c'est My Dad.
Mais c'est pas du tout ça.
Non.
Bon, vous avez vu que le James Bond, on le verra pas.
Mourir peut attendre.
Quoi?
Mourir peut attendre.
Oui,
effectivement.
Mon grand-père et moi de Tim Hill, La femme qui s'est enfuie, on va terminer avec ce film en vous laissant du temps quand même pour les conseils, parce que là pour une fois je me sens un peu coupable avec cette programmation. La femme qui s'est enfuie, film très court, 1h17, du sud-coréen prolifique Hong Sang-soo, et oui c'est encore lui, on a parlé cet été au masque, il faut dire sans enthousiasme, de son film Hotel by the River. Et là, l'intrigue, elle est totalement minimaliste, hein, pendant que son mari est en voyage d'affaires. Gami, c'est Kim Min-hee, rend visite à 3 de ses amis, mais à chaque rencontre, un homme différent surgit et interrompt leurs conversations qui sont pas palpitantes, hein, c'est plutôt même banal, sur l'amour, le mariage, la cuisine, avec, au début, et ensuite un poulailler en fond de scène, dont je n'ose pas imaginer qu'il est métaphorique, c'est étrange. Hein. Film, alors là, c'est assez stupéfiant, qui a valu à Hong Sang-soo l'ours d'argent du meilleur réalisateur au dernier festival de Berlin. Je ne comprends plus rien. Pierre.
C'est-à-dire, moi, généralement, j'aime bien les réalisateurs qui tournent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, comme disait Chabrol, on a plus de chances de réussir un film quand on en tourne beaucoup par an que quand on en fait un tous les 5 ans. Donc, j'ai une tendresse pour ce réalisateur qui, alors, tourne sans arrêt. Le petit problème, évidemment, c'est qu'il tourne de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'il se fatigue, quoi. Et là... Il y a plus rien. Alors, on peut parler peut-être d'épure à la Bresson, peut-être, parce que, mais je vois pas de style là-dedans, je vois pas beaucoup de mise en scène, je vois pas de personnage. Donc, je crois vraiment que là, il fait pas.
On l'appelle souvent le Romer coréen, voilà.
Oui, c'est un peu, mais on peut dire ça, le Romer coréen.
Alors.
Mais là, je veux
le
dire,
petit Romer.
La comparaison avec Romer devient délicate parce qu'il y a plus rien du tout.
Mon Romer voilà. Et moi.
Pardon ?
Non, rien. Éric.
Ah non, mais bon, maintenant, une chose est sûre, c'est que Hong Sang-soo se fout du monde de A jusqu'à Z, désormais. Et il a raison, puisque certains continuent à le prendre au sérieux, parce que déjà, Hotel by the River, c'était rien, mais là, c'est vraiment des creux.
Petite parenthèse, messieurs et madame la critique, très bonne presse. Hein.
Très bonne presse. Il y a la carte.
Et les étoiles, à ne plus savoir où les mettre.
Il y a la carte, mais quoi qu'il filme, hein, il filmerait l'annuaire, qu'il aurait 4 étoiles partout.
Mais ce serait mieux, peut-être. Non, parce qu'il y a des films dont on se demande quand ils vont finir. Celui-là, on se demande quand ça va commencer. Tellement, il n'y a rien sur l'écran. Cette fille qui va voir d'anciennes amies, qui leur dit à toutes, c'est la première fois en 5 ans que je suis séparée de mon mari. Mais on comprend que le mari, il soit allé prendre un peu d'air, parce qu'elle n'a rien d'intéressant à raconter.
Et ce poulailler.
Il y a le poulailler, puis il y a un voisin qui vient dire que sa femme a peur des chats. Dans la troisième visite, elle va retrouver une ancienne amie qui dirige un centre culturel où elle va regarder un film. Alors c'est très curieux parce qu'elle y va deux fois. La première fois, il est en noir et blanc. La deuxième fois, en couleur. On ne sait pas pourquoi. Et en plus, c'est un bon film, un vieux film d'Aung San Suu. Donc il est maso de nous montrer ce qu'il avait fait de bien avant. Non, mais c'est un truc sidérant parce qu'il est visiblement toujours amoureux de son actrice principale. Elle a changé de coiffure, mais ce n'était peut-être pas la peine de faire un film d'1h20 là-dessus.
Même pas 1h20. Sophie.
Je trouve que le film a beaucoup de charme. Alors, j'y vois beaucoup plus de choses que vous, en tout cas.
Ah bah oui.
Je reconnais que c'est un cinéma qui est un peu dévitalisé. J'ai préféré les films précédents de Aung San Suu. Mais je trouve que celui-là est reconduit une expérience que j'ai chaque fois, moi, face à un film de Aung San Suu, qui est qu'effectivement, il se passe rien. Effectivement, il y a une sorte de trivialité totale. Tout est anodin, tout paraît banal. On mange beaucoup, on parle beaucoup de ce qu'on mange. On parle, en effet, d'une poule, de coq, un chat, une situation.
Ah oui, mais pas le soju, là.
Non, il picole.
Juste un peu de vin blanc.
En général, ils boivent, mais là, ils ne boivent pas tellement. Là, ils ne boivent pas beaucoup. Et puis, on se parle de choses et d'autres de temps en temps. Oui, on parle du mari, on se demande un peu. Bon, tout ça est un peu... C'est une espèce de façade comme ça très lisse, et en même temps les choses se reproduisent, et dans cet écart, enfin il y a des motifs qui se reproduisent sans être jamais les mêmes, et dans cet écart infinitésimal, dans ce petit écart entre dans les répétitions du motif, se dessine un deuxième film qui est lui beaucoup plus vertigineux, beaucoup plus secret.
Mais lequel alors ?
Eh bien, c'est un film qui prend source à l'intérieur même de l'imaginaire du spectateur. Et moi, c'est ce que j'aime chez Aung San Suu, c'est que Aung San Suu, il donne au spectateur sa place pleine et entière de pouvoir interpréter et fabriquer son propre film. Et ça, c'est vraiment merveilleux.
Mais ça, tu as raison. Tu as raison. Généralement, c'est ça.
Eh bien, là, je le retrouve encore. Et quand le film, j'ai oublié le film. Enfin, je veux dire, je l'ai vu il y a longtemps. Et ce qui me reste de ce film, c'est effectivement tout ce que j'y ai mis, moi. Et ça, je trouve ça formidable. C'est rien que pour ça, j'ai envie de défendre le film.
Et le titre, je n'ai pas compris, La femme qui s'est enfuie.
Eh bien justement, La femme qui s'est enfuie, il fait croire que...
C'est pas
enfuie. Des fausses pistes, mais il fait croire que c'est à un moment donné, on parle d'une femme qui s'est enfuie,
oui.
On croit que c'est elle. Et... À la vérité, on se demande si ce n'est pas, évidemment, la jeune femme, donc, qui est jouée par Kim Min-hee, qui visite ses trois femmes et qui répète chaque fois que son mari... Et elle en parle de manière toujours un peu différente, un peu dissonante. Et encore une fois, c'est là que se niche ce film fantôme qui... Moi, je trouve, je le vois, quoi. Je le vois.
Chapeau, Sophie. Et Nicolas.
J'aurais tant aimé être comme Sophie. Moi, je m'y suis repris à deux fois. Et
l'as vu deux fois ?
Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose et j'ai toujours pas compris quoi. je vais pas répéter ce que vous avez dit. Moi, Aung San Suu, effectivement, il y a des films qui ont, il y a une, comme ça, une délicatesse de touche, une petite musique, on va dire, pour appeler les clichés, qui souvent, comme l'a très bien dit Sophie, nous stimule. Là, je ne comprends pas où ça va. J'ai l'impression surtout qu'il a pris l'habitude de tourner systématiquement. Moi, j'avais pas vu de film d'Aung San Suu depuis un an. J'ai dû en rater une dizaine. Du coup, peut-être que je me suis dit, j'ai perdu le fil.
On va voir le prochain.
Donc là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça me raconte et je suis assez, je suis resté assez désarmé face à cette expérience.
C'est Aung San Suu, c'est La femme qui s'est enfuie. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. le temps est venu des conseils. Et on va commencer avec Sophie.
Alors moi j'ai deux conseils. Oui. Un film lumineux d'une cinéaste italienne qui s'appelle Maura Del Perro, qui filme, le titre c'est Maternal, mais le film original c'est Hogar, qui veut dire foyer en espagnol. C'est filmé à Buenos Aires, en Argentine, et c'est un film qui, comme le titre français l'indique, Maternal, parle de la maternité, un peu sous toutes ses formes, à l'intérieur de ce foyer de jeunes mères célibataires qui se retrouvent complètement désarmées, démunies, elles ont 17 ans et elles ont ce fardeau de la maternité, entourées de religieuses qui s'occupent d'elles. Et vraiment, c'est beau parce qu'il y a d'un côté le déni de grossesse, de l'autre l'envie refoulée. Enfin, le film est vraiment lumineux et très, très, très incarné. Et ce qui pourrait être didactique est au contraire extrêmement incarnée dans ce film-là, donc de maternelle. Et le deuxième film, c'est un film d'animation qui s'appelle Joseph de Aurel. C'est un film absolument magnifique qui convoque la guerre d'Espagne, qui convoque
dont
le dessin.
Dont parlait cette auditrice au début de l'émission dans le
courrier. Exactement, qui convoque aussi l'héroïsme ordinaire. C'est vraiment très, très, très beau.
Nicolas, ton conseil.
Alors moi, c'est un documentaire qui sort le 14 octobre, donc le mercredi prochain, qui s'appelle Princesse Europe de Camille Lotto. Camille Lotto a suivi Bernard-Henri Lévy lors de sa tournée européenne avec son seul en scène au moment des élections européennes il y a un an. Et il en a tiré un carnet de voyage assez très très drôle, assez hallucinant dans la liberté qu'il prend, dans la manière dont il montre BHL, parce que BHL soutient le film et le film n'est pas forcément...
C'est un plagiat du film « Les héros ne meurent jamais
hein. ». c'est ça. Non, c'est beaucoup plus réussi parce que il ne s'est pas contenté de filmer BHL et ses rencontres avec tous les dirigeants de tous les pays. Il est allé dans les rues de chaque pays. Il a interrogé des militants, des artistes, des gens qui un peu voilà, qui ont un discours sur l'Europe. Et le film est à la fois très drôle, très inventif. C'est un documentaire vraiment tourné à l'arrache, mais vraiment avec vraiment beaucoup d'humour et qui en dit long sur le bordel sans nom qui est devenu l'Europe. Quoi.
Alors attention, le conseil de Nicolas, c'est mercredi prochain,
le 14 octobre,
ce soir. Moi, j'ai un documentaire qui est déjà sorti. Qui m'a passionné, c'est Un pays qui se tient sage, le documentaire édifiant de David Dufresne sur les violences policières pendant les manifestations de Gilets jaunes. Images filmées au téléphone portable, soumises, et ça, c'est l'angle du film à la réflexion d'historiens, d'avocats, d'ethnographes, de policiers. Et tant qu'à faire, si vous voyez ce film passionnant, lisez aussi du même Dufresne, Dernière sommation qui a paru l'an passé chez Grasset. Le conseil d'Éric.
Un beau livre dans tous les sens du terme, c'est Le Trintignant de Serge Corbert, le cinéaste qui est un ami de toujours de Trintignant.
Mais un beau livre, tu veux dire, avec des photos et
Oui. Et beaucoup de textes, et de Jean-Yves Catelan, le journaliste qui a dû l'aider. Et c'est tellement émouvant, on apprend un tas de choses. Ce comédien, il disait, être comédien, ce n'est pas l'idéal comme recherche d'équilibre. On est plus heureux en étant jardinier, mais c'est moins bien payé. Et il y a une intelligence, on apprend tout un tas de détails que et sur le tournage du Fanfaron, il était terrorisé parce que Gassman conduisait très mal, alors que Trintignant, lui, est un très très bon pilote. Il raconte que sur le tournage, on le sait, il y a une tragédie qui s'est passée, le tournage du Conformiste. Nadine Trintignant et lui ont perdu leur fille à Rome. Et il a joué une scène la semaine suivante. Et il était tellement bon, son regard était tellement fort que Bertolucci lui a demandé « À quoi tu pensais pour faire ça ?» Et Trintignant lui répond « Au pneu de la Mercedes ». Il raconte comment peut-on demander ça à quelqu'un avec ce qui s'était passé. Il ajoute aussi « Je suis mort le... » Le 1er août 2003, date de l'assassinat de sa fille Marie. Et le livre est magnifique parce qu'on voit une carrière phénoménale et un type qui survit aujourd'hui grâce au théâtre et à la poésie. Et c'est un très très grand bonhomme qui est toujours là parmi nous et on aura eu la chance de vivre dans un monde où existait un Jean-Louis Trintignant.
Tu rappelles l'éditeur ?
Les éditions de La Martinière.
La Martinière. Et enfin le conseil de Pierre.
Alors un film qui sort... aussi mercredi prochain, le 14, qui s'appelle A Dark, Dark Man. C'est un film kazakh, comme son titre anglais ne l'indique pas, de Alika Nirzanov. Moi, je trouve que c'est un film absolument formidable. C'est l'histoire d'un flic qui est absolument habitué à la corruption, parce que la corruption là-bas est totale. Et un beau jour, c'est pas qu'il est là de cette corruption, parce qu'il la trouve normale, arrive un personnage et un événement qui va lui faire prendre conscience de ça. Et il entame une sorte de rédemption perdue d'avance. Et c'est un film, mais vraiment tout à fait formidable. Ça s'appelle donc... Alors, le titre anglais, pourquoi un titre anglais pour un film kazakh? Mais ça s'appelle A Dark, Dark Man de Aldika Nirzanov.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup. Sophie Avon, Nicolas Chalère, Pierre Murat, Éric Neuf. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir au théâtre de l'Alliance Française. À la technique, il y avait, et je les remercie, Bernard Laniel, Philippe Thibault ainsi qu'Inès De Bruyne. La réalisation était signée Xavier Pistugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 22 octobre. Je vous attends nombreux à partir de 20h au théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera enfin de théâtre. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.